Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce mardi, insécurité au Sahel. Des élèves étaient dans les rues de Djibo ce mardi matin. Ils exigent la réouverture de leur salle de classe. La crise sécuritaire ayant entraîné la fermeture de milliers d'écoles à travers le Burkina Faso. Et puis l'opération Sauvons Djibo et les PDI, lancée par de jeunes citoyens burkinabés, a permis de récolter environ 400 tonnes de vivres ainsi que des vêtements. Selon les initiateurs, ces vivres seront acheminés vers Djibo et d'autres villes en difficulté. À la une également, affaire Emmanuel Zungrana, des sympathisants menacent de descendre dans les rues pour réclamer la libération du lieutenant-colonel détenu pour tentative de déstabilisation des institutions, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Voilà pour les titres, bienvenue à cette session d'information. Au Burkina Faso, les élèves ont officiellement repris le chemin de l'école depuis maintenant une semaine. Cependant, des centaines de milliers d'élèves attendent désespérément la réouverture de leur salle de classe. C'est le cas de Djibo, où des élèves se sont mobilisés ce mardi matin pour exiger la réouverture des salles de classe pour la rentrée scolaire 2022-2023. C'est au Haut Commissariat qu'ils se sont dirigés pour remettre leur doléance au préfet Marou Ilboudo, président de la délégation spéciale. Cette doléance comprend 4 points. En plus de la réouverture des classes, les élèves veulent le rétablissement des réseaux téléphoniques, la sécurisation de la province et celle de l'axe Djibo-Kongoussi. Si rien n'est fait, les élèves menacent de ressortir les jours à venir pour se faire entendre. Selon le gouvernement, à la date du 30 avril dernier, 4148 salles de classe étaient fermées du fait du terrorisme. Et pour venir en aide aux populations sous le joug du terrorisme, Alain Traoré et ses collaborateurs ont lancé l'opération Sauvons Djibo et les PDI. 400 tonnes de vivres ont été récoltées pendant 3 jours dans 10 villes du Burkina Faso. En effet, l'alerte a été lancée le 7 octobre dernier, un appel patriotique qui vise à alimenter Djibo et les déplacés internes. Personne n'a croisé les bras face à cette initiative. Des Burkinabés de l'extérieur, de l'intérieur et même des non-Burkinabés sont venus à la rescousse des populations victimes du terrorisme. Cette opération de collecte a été fructueuse selon les initiateurs qui ont fait le point de la collecte face à la presse ce mardi à Ouagadougou. On fait le point avec Charlda et Faouzia Zongo.
Sauvons Djibo et les personnes déplacées internes est un appel patriotique qui est né des événements du 30 septembre, explique Alain Traoré dit Alino Faso, un des initiateurs de l'opération Sauvons Djibo.
Si on a la capacité comme ça de se mobiliser pendant que des villes comme Djibo, Séba et puis Solane et tout ça, la lance des SOS parce qu'il y a la famine là-bas, c'est qu'on a la même capacité également de se mobiliser pour collecter des vivres, de jeter un regard vers Djibo qui est en train de lancer des alertes depuis, Séba qui est en train de lancer des alertes, Solane qui est en train de lancer des alertes, Titao qui est en train, Pama également. On a la possibilité également d'avoir la même mobilisation pour pouvoir donc cotiser des vivres et puis aider nos frères.
Pendant 3 jours, des bonnes volontés ont fait parler leur cœur à travers 10 villes du Burkina Faso. Des vivres, des denrées alimentaires et des vêtements ont été collectés par plus de 200 bénévoles.
Pour la ville de Ouagadougou, nous sommes à peu près à 250 tonnes en 72 heures. Pour la ville de Bobo-Dioulasso, on avait un seul site, le Théâtre de l'Amitié. Avec M. Lamine Sanou et toute son équipe là-bas, ils sont à peu près à 30-35 tonnes sur Bobo-Dioulasso. Après, dans les 8 autres villes, l'effervescence n'a pas été grande, mais c'est quand même majeur parce que sur ces 8 villes-là, on est à peu près à 10 tonnes, 10 à 15 tonnes pour les 8 autres villes. De façon prévisionnelle, à la fin, avec ce qu'ils sont en train d'envoyer et leurs prévisions, on pourrait se retrouver au bas mot avec 400 tonnes.
En plus des vivres, les initiateurs ont reçu des transferts d'argent d'environ 2 millions de francs CFA. Raïssa Kampore, coordonnatrice générale de l'opération Sauve Djibo.
Donc on n'avait pas de budget, c'était budget zéro au début. Et les bénévoles qui venaient, il fallait leur donner de l'eau, souvent manger toute la journée, les gens qui viennent. Donc on s'est retrouvés face aux réalités et on s'est dit, il faut forcément qu'on ouvre un numéro Orange Money pour que les gens puissent contribuer. On a eu près de 2 millions de contributions dans les Orange Money qui nous ont permis de pouvoir louer tout ça. Et c'est avec cet argent-là qu'on est en train de faire venir ce qu'il y a dans les régions. C'est avec cet argent que nous allons gérer beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et si ça reste, nous allons payer encore des vivres pour ajouter.
Pour la répartition, 100 tonnes de vivres iront à Djibo et les autres zones à fort défi sécuritaire recevront à peu près 40 tonnes.
La ville de Djibo est sous blocus depuis maintenant plusieurs mois. 70 tonnes de vivres avaient été acheminées le 7 octobre dernier par voie aérienne par l'armée burkinabé, soit plus de 10 jours après l'attaque d'un convoi de ravitaillement à Gaskindé, où 37 personnes, dont 27 militaires, avaient perdu la vie. Autour à Ouagadougou, des jeunes menacent de descendre dans la rue. Ils réclament la libération pure et simple du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, l'ancien commandant du 12e régiment d'infanterie commando basé à Waïgouya, avait été arrêté et incarcéré le 10 janvier dernier, accusé notamment de tentative de déstabilisation. Le point avec Moumouni Tamboura.
Le mouvement a lancé un appel à la population pour une mobilisation en vue des actions à venir. Si la promesse des nouvelles autorités d'examiner le dossier Zungrana n'est pas suivie d'effet de libération, Boris Guissou et ses camarades menacent d'ailleurs de descendre dans la rue s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, ancien combattant du 12e régiment d'infanterie commando, basé à Waïgouya, a été arrêté et placé en détention le 10 janvier 2022. Il est accusé de complot, détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. 9 autres personnes ont été mises en examen et plus de 30 témoins auditionnés. Présenté au juge le 22 septembre, le dossier du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été mis en délibéré pour le 27 octobre 2022. Son avocat, maître Paul Kéré, avait indiqué que la place de son client est au front et non à la prison militaire. Le 2 octobre, le MPCED annonçait à la télévision nationale que la lumière sera bientôt faite sur le cas du lieutenant-colonel Zungrana.
Situation nationale. Maître Herman Yamyogo, président de l'UNDD, appelle les autorités de la transition à prendre leurs responsabilités et surtout à aller vite sur les axes de priorité des Burkinabés. Eh bien, l'annonce a été faite ce mardi 11 octobre au siège du parti au cours d'une conférence de presse. À l'occasion, Maître Herman Yamyogo demande au capitaine Ibrahim Traoré de poursuivre l'œuvre de la réconciliation nationale. On en sait un peu plus avec Valérie Guéry.
Ibrahim Traoré doit rester à la tête de l'État pour diriger la transition. C'est l'avis de Maître Herman Yamyogo, président de l'UNDD, qui, après avoir donné sa lecture sur la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, demande au MPRCR2 de prendre toutes ses responsabilités parce que lorsqu'on fait un coup d'État, on l'assume.
Nous nous disons à l'équipe qui est là qu'il faut heureusement être toujours dans le MPCR avec les mêmes principes. Nous disons d'assumer et de ne pas faire des ouvertures, de ne pas faire des consultations excessives qui vont ramener ce qu'eux-mêmes veulent combattre, c'est-à-dire la politisation des affaires. Ils doivent assumer jusqu'au bout. C'est à eux de mettre en place leurs organes. C'est à eux de dire s'ils veulent un civil ou un militaire, mais ce n'est pas à nous. En tout cas, nous à l'UNDD, on estime que la priorité c'est la sécurité, c'est le pays qui coule.
Et cette lutte contre le terrorisme ne peut être possible sans la réconciliation nationale, surtout au niveau des forces de défense et de sécurité, à en croire Maître Herman Yamyogo.
La plus importante, c'est la réconciliation, mais en commençant par la réconciliation au sein de l'armée. Il ne faut pas se faire des illusions. Nous vous avons toujours parlé franchement. La réconciliation ne concerne pas que les politiques. La réconciliation concerne aussi plusieurs secteurs, et notamment l'armée.
Pour le président de l'UNDD, en plus de la réconciliation nationale, il faut lutter contre la malgouvernance. Pour cela, il faut des réformes et des refondations pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs.
Et puis les secrétaires généraux des ministères ont échangé aujourd'hui autour des questions relatives à l'expédition des affaires courantes. C'est à l'occasion de la deuxième rencontre de l'année pour le renforcement de la collaboration entre les ministères et les institutions dans la conduite de l'action gouvernementale. La rencontre s'est tenue ce mardi au ministère des Affaires étrangères. On fait le point avec Irène Nikiema et Abdulaziz Zoulabou.
Les secrétaires généraux des ministères ont, depuis l'avènement du coup d'État qui a valu la dissolution du gouvernement, la charge de l'expédition des affaires courantes de leur département. Pour lever des zones d'ombre sur ce qui est attendu de leur part, cette rencontre était nécessaire. Jacques Dingara, secrétaire général du gouvernement.
Faisant suite donc aux instructions du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, relative au traitement diligent des dossiers de vos ministères, il est apparu opportun d'organiser cette rencontre dont l'objectif est de nous permettre donc d'échanger autour des dossiers urgents, d'opérationnaliser les instructions de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, d'échanger autour de l'habilitation des secrétaires généraux des ministères pour l'exécution du budget 2022 dans le cadre de l'expédition des affaires courantes et enfin de partager donc des informations diverses.
Le chef de l'État l'a rappelé au cours de sa rencontre avec les 10 secrétaires aux premières heures de sa prise du pouvoir. L'objectif est d'aller plus vite dans un contexte où tout est urgent. Dans le même sens, les actions à mener au cours de cette semaine sont également définies dans cette rencontre. Jacques Dingara.
Au titre des nouvelles instructions pour cette semaine, nous pouvons citer entre autres le développement d'une stratégie de sécurisation des sites ou des investissements hydrauliques pour des activités agro-sylvopastorales, la mise en place d'un plan d'urgence pour la production de campagnes sèches, la mise en place d'un plan d'urgence d'accès aux services de santé, mais aussi le développement des infrastructures routières.
Ce cadre de concertation entre secrétaires généraux de ministères et institutions a été initié le 1er septembre 2022 par le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres.
Et en mot de santé, dans ce journal, nous parlons de la maladie de l'Alzheimer, très handicapante dans la vie courante. Elle touche principalement des personnes âgées. Eh bien, selon l'OMS, cette affection neurodégénérative est responsable de la majorité des cas de démence dans le monde. Et cette maladie est de plus en plus présente dans les pays africains. On fait le point avec Marina Traoré.
Elle se caractérise par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles. Au fur et à mesure qu'elle se développe, le malade perd son autonomie, sa capacité à réaliser des tâches simples, à communiquer. La maladie d'Alzheimer est, selon l'OMS, responsable de 60 à 70% des cas de démence dans le monde. Contrairement à ce que bon nombre pensent, de nombreux Burkinabés souffrent de cette affection neurodégénérative qui touche surtout les personnes âgées. Dr Louis-Sylvain Ouedraogo, gériatre, gérontologue.
On pense souvent que la maladie d'Alzheimer, c'est des maladies de personnes occidentales qui n'y existent pas au Burkina. Mais force est de reconnaître que moi, quand je suis rentré et que j'ai commencé, au moins un tiers de mes patients ont ces troubles-là.
Même si l'âge est un facteur de risque, cette maladie peut être précoce dans certains cas. Docteur Louis-Sylvain Ouedraogo.
La maladie d'Alzheimer peut être précoce lorsqu'elle apparaît entre 35 et 40 ans. Dans ce cas-là, c'est des maladies qui sont génétiques. Maintenant, la maladie d'Alzheimer qui est commune, c'est une maladie qui, malgré tout, en fait, va se retrouver à partir d'un certain âge. Maintenant, la chose à dire, qui est très importante là-dessus, c'est que dans les 10 dernières années qui sont passées, la plupart du temps, c'est des pathologies qu'on voyait chez des personnes de 80 ans. Mais ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que c'est comme si l'âge commençait à diminuer. Donc, on voit des pathologies Alzheimer beaucoup plus tôt qu'avant. Parce que tout simplement, notre mode de vie, en fait, permet à cette pathologie-là de se manifester.
Pour mieux accompagner les personnes souffrant de cette maladie, les spécialistes conseillent, entre autres aux proches, d'être à l'écoute, d'éviter toute réflexion agressive ou culpabilisante. Il est également inutile de chercher à tester la mémoire du malade ou à rééduquer ses problèmes de langage.
Hors de chez nous, au Mali, le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution CRNC, Fousseni Samake, a remis officiellement mardi l'avant-projet de la constitution du Mali et le rapport de fin de la CRNC au président de la transition Assimi Goïta. L'élaboration d'une nouvelle constitution répond aux aspirations du peuple malien exprimées lors des assises nationales de la refondation, a expliqué Fousseni Samake qui soutient que cette nouvelle constitution est un marqueur important du processus de refondation de l'État malien. Et puis au Tchad, le Premier ministre a démissionné mardi au lendemain de l'annonce de la nomination prochaine d'un gouvernement d'union nationale par le général Mahamat Idriss Déby Itno. Albert Pahimi Padake a présenté sa démission et celle de son gouvernement lors d'une audience avec le chef de l'État qui les a acceptés selon un communiqué de la présidence. Rappelez-vous, le Premier ministre avait été nommé il y a 18 mois par Mahamat Idriss Déby.
La revue de presse.
La tenue des assises nationales prévues les 14 et 15 octobre prochains au Burkina Faso cristallise l'attention des principaux quotidiens du jour. Le pays appelle à éviter les erreurs du passé. L'observateur Palga, quant à lui, invite à séparer le bon grain de l'ivraie. Et pour aujourd'hui au Faso, il faut penser au Burkinabé d'abord. Autant de réactions des éditorialistes résumées dans la revue de presse signée Brigitte Yoda.
À la une de la presse burkinabé, les assises nationales des 14 et 15 octobre 2022. Dans 72 heures, une trentaine d'intelligences vont se pencher sur la rédaction de la constitution du MPSR 2, lance aujourd'hui au Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré est vraiment un homme pressé, poursuit l'Obs, indiquant qu'il l'a souvent d'ailleurs répété depuis sa prise du pouvoir le 30 septembre dernier. Au Burkina, tout est urgent, nous n'avons pas le temps, nous voulons aller vite. Pourquoi donc perdre du temps alors que tout est urgent, s'exclame l'Express du Faso pour qui ces assises nationales sont le plus souvent un ramassis de personnes issues de ce qu'on appelle forces vives qui en réalité ne représentent pas toujours les opinions réelles des Burkinabés. Malgré tous les espoirs que le jeune capitaine peut susciter et sa volonté d'aller vite et bien, le journal des 1200 logements soutient qu'il ne peut, à lui seul, relever tous les défis auxquels sont confrontés les Burkinabés. Allant dans le même sens, aujourd'hui au Faso estime que ces assises doivent être l'occasion de se parler, de penser au Burkina Faso. D'abord et seul, des hommes et femmes capables de relever des défis doivent être choisis. C'est pourquoi le pays pense que pour éviter les erreurs du passé, il appartient au capitaine Traoré de savoir faire le bon choix des personnes qui auront la lourde mission d'examiner et d'adopter la charte de la transition et de désigner ensuite le futur président du Burkina. Mais cette responsabilité n'incombe pas seulement au capitaine. Pour notre confrère, il appartient aussi au peuple burkinabé de jouer sa partition en accompagnant son nouveau leader. Ainsi, afin de trouver l'oiseau rare qui présidera à notre commune destinée les 24 mois à venir, le doyen des quotidiens appelle à séparer le bon grain de l'ivraie, comme dirait une parabole biblique. L'observateur Palga espère en tout cas qu'à ce nouveau tournant décisif de notre histoire, les commandes du navire battant pavillon Burkina ne seront pas confiées à des gens dont le seul mérite aura été d'avoir battu le pavé, érigé des barricades ou incendié des bâtiments publics pour soutenir l'homme fort du moment.
Et c'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté. À la retransmission Facebook, Yaya Diomandé. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme.
Radio Omega, l'info en direct.